L'homme qui a été arrêté, le premier tireur qui a été arrêté hier en Nouvelle-Zélande, est un Australien décrit comme un violent extrémiste de droite. Il a été arrêté après avoir attaqué deux mosquées à Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, au cours desquelles 49 personnes au moins ont trouvé la mort hier. Cet homme a publié avant les attaques un manifeste intitulé Le Grand Remplacement, concept employé en France par l'écrivain Renaud Camus. Nous sommes en ligne avec l'historien Nicolas Lebourg. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CEPEL à l'Université de Montpellier, vous êtes membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et spécialiste de l'extrême droite. Vous allez publier en mai prochain « Les nazis ont-ils survécu ?». Première question sur le lieu de ces attaques. La Nouvelle-Zélande, un pays dans lequel 1% seulement de la population est musulmane, pays réputé pour être le plus sûr du monde. Est-ce que on sait pourquoi ces attaques ont eu lieu là-bas? Est-ce que vous avez été surpris par ça?
Manifestement, dans l'esprit du terroriste, c'est montrer à quel point la question de l'islam est une question qui métastase le monde blanc à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Mais il faut bien voir que la réorganisation des extrêmes droites radicales après la Seconde Guerre mondiale, c'est une réorganisation qui est complètement transnationale. De même que le monde rentre dans une phase transnationale de la globalisation après 1945, les extrêmes droites aussi, d'abord essentiellement par des internationales dans les années 1950 qui sont des deux côtés de l'Atlantique, et puis au fur et à mesure, elles suivent ce mouvement de la globalisation, donc c'est assez rationnel de sa part.
Oui, parce que vous dites que le nationalisme blanc, qui est la thèse centrale, l'ultranationalisme blanc d'ailleurs, qui est la thèse centrale, est devenu un objet mondialisé, que c'est un objet qui a une histoire et qu'on retrouve donc dans le document de 74 pages expliquant les motivations des terroristes, et en particulier de cet homme de 28 ans, l'Australien, intitulé donc « Le grand remplacement vers une nouvelle société ». Il fait directement écho à la théorie dite du grand remplacement de Renaud Camus. Est-ce que c'est un hasard pour vous, Nicolas Lebourg?
Non, pas du tout. D'abord parce que ce terroriste n'est pas confus. Je veux dire, c'est quelqu'un qui tient un discours très clair, très cohérent, avec de nombreuses références. Le modèle qu'il se donne, en particulier, c'est Sir Oswald Mosley. Sir Oswald Mosley, c'est un ministre travailliste anglais durant l'entre-deux-guerres, qui va devenir le leader de l'Union des fascistes britanniques, qui va, après la Seconde Guerre mondiale, développer des thèses raciales. À l'échelle du monde, il va expliquer, au départ, il va s'intéresser à l'apartheid, et puis au fur et à mesure, il va arriver à l'idée d'une organisation planétaire des races, avec par exemple l'idée que le tiers nord de l'Afrique devrait être pour les blancs, les deux tiers sud pour les noirs, etc. De même, il va s'intéresser, donc, notre terroriste, à ce slogan, c'est plus un slogan qu'une théorie, c'est une formule, le grand remplacement, et il agrège ainsi ces différentes références pour armer sa conscience, son affirmation de sa fierté d'appartenir à une race blanche, avec sa culture, son histoire et son identité biologique.
Dans ce texte que vous avez lu, ce texte de 74 pages, Nicolas Lebourg, effectivement, il cite Oswald Mosley, mais il fait aussi des références pêle-mêle à l'auteur d'une attaque à la voiture Bélier à Londres en 2017, à un Suédois qui avait tué avec une épée un enseignant, un étudiant en 2015 de son côté, à un Américain qui revient deux fois, qui était l'auteur de la fusillade de Charleston en Caroline du Sud en 2015, à Anders Breivik, et on voit bien l'auteur de la tuerie d'Oslo, bien sûr, et on voit bien à quel point non seulement c'est une histoire que vous racontez vous aussi, mais que c'est aussi mondialisé. Le fait même qu'il est, vous m'avez pas forcément répondu sur le grand remplacement de Renaud Camus, le fait même que ce soit une référence explicite d'une certaine façon, est étonnant, nous surprend. C'est-à-dire qu'on savait que ce texte de Renaud Camus était très populaire dans les milieux d'extrême droite français, mais peut-être un peu moins dans le monde. Or, on le retrouve là, sous la plume d'un Australien qui va attaquer des mosquées en Nouvelle-Zélande. Comment expliquer ça ?
Alors c'est, en fait, c'est tout à fait logique, parce que ce qu'on appelle en France le grand remplacement suite au succès de cette formule de Renaud Camus, un Américain vous dirait, d'accord, c'est le white genocide. Et lui, dès la page 3, il utilise également l'expression de white genocide. Elle apparaît en 1972 dans la presse de l'extrême droite radicale américaine, cette formule de white genocide. Et le génocide blanc, c'est l'idée que effectivement la promiscuité raciale aux États-Unis, l'avortement, la licence des mœurs, etc., tout cela amène à la destruction de la race blanche de manière voulue. Par le gouvernement gouvernement d'occupation sioniste, hein, c'est l'idée d'un complot juif qui obligerait à cela. Et ce que vont dire les néo-nazis américains, en particulier David Lane, qui est cité plusieurs fois également dans le manifeste, en 1991, c'est qu'avec la chute de l'Union soviétique, ce gouvernement d'occupation sioniste, c'est plus juste le gouvernement fédéral américain, ce complot est devenu planétaire et a pris tout l'Occident. Et ces théories-là, aux États-Unis, elles venaient largement de l'Europe des années 1950, en particulier d'un milieu qui s'appelle le Nouvel Ordre Européen, qui était une internationale fondée par d'anciens SS et d'anciens collaborationnistes, et qui diffusait ces thèses-là. On va les trouver ainsi dans différents groupes. Donc vous voyez, dès les années 50, les années 70, ces thématiques font des allers-retours des deux côtés de l'Atlantique, on s'emprunte des mots, on s'emprunte des idées, et donc c'est dans ce système-là, cette circulation-là, qu'il n'est pas très étonnant de retrouver la formule. Même s'il faut bien insister là-dessus, M. Camus, lui, lorsqu'il la formule, enlève toute idée d'un conspirationnisme juif, d'un complot juif, dans cette procédure. Ça, au XXIe siècle, le succès du thème du grand remplacement, il est hors de la thématique du complot juif. Et d'ailleurs, dans le manifeste aussi, le terroriste se reconnaît comme fasciste, mais pas comme nazi.
Il se reconnaît d'ailleurs comme éco-fasciste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un terme qui revient plusieurs fois.
Ouais. Alors c'est quelque chose qui se diffuse à partir des années 70, ces conceptions-là. On peut prendre deux pays en particulier, les États-Unis, dans les milieux néo-nazis, par contre, justement largement, on se met à beaucoup s'intéresser à l'écologie, en Espagne, plus sur la fin des années 70, et en Allemagne. Avec l'idée, il y a la volonté systématiquement, si vous voulez, de renouveler le fascisme après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un mot assez difficile à porter, et une étiquette assez délicate à porter après 1945. Donc il y a des tentatives, par exemple en 1968, dans l'extrême droite radicale française, de fascisme, d'aller chercher dans l'anarchisme, en Angleterre, dans les années 90 aussi, ça va se faire, de dire la fédération de Proudhon, la façon dont on veut concevoir une Europe des ethnies, ça peut parler, il peut y avoir une dialectique. Et il y a autour de l'écologie, avec l'idée que la défense de l'identité biologique, la défense d'une race blanche qui ne se métisserait pas, après tout, ça serait une écologie. Si on se rappelle, dans les années 90, il y avait des formulations à bas niveau de ça qui avaient été reprises par M. Bruno Maigret pour le Front National, avec cette idée qu'une vraie écologie, c'est aussi une écologie des ethnies et qu'il faut préserver la diversité contre le métissage, que ça participe d'une écologie globale.
Noël Mamère, vous connaissez cette histoire?
Oui, je la connais parce que l'écologie a toujours été traversée par ce type de courant. Et effectivement, Bruno Maigret en France était le partisan de cette pureté de la nature et pureté, avec la conclusion de la pureté de la race. Et ce sont des substrats de l'écologie qui ont toujours traversé ces mouvements depuis le 19e siècle. Et l'écofascisme est une menace pour l'avenir si nous n'arrivons pas à régler les problèmes aujourd'hui, parce que nous pouvons nous retrouver dans des sociétés de contraintes, des sociétés dans lesquelles il y aura une émergence de formes militaristes, et donc c'est la possibilité d'écofascisme ou même d'écototalitarisme. Donc je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant sur ces questions-là, et nous pouvons très bien nous trouver instrumentalisés par un certain nombre de gens qui associeront la question de la pureté de la nature à celle de la pureté de la race.
Est-ce que si on reprend la cohérence, Nicolas Lebourg, de la colonne vertébrale idéologique, de ce texte du tireur qu'il a publié donc sur les réseaux sociaux avant d'aller faire ses attaques à Christchurch, c'est la lutte, le combat contre et un combat armé et meurtrier, contre le métissage, contre le multiculturalisme. Vous disiez au début, ce qui est clair, c'est qu'il voulait s'attaquer à des musulmans, c'est agir contre des musulmans. Mais ce qu'on entend de votre histoire du nationalisme blanc mondialisé, et qui est une histoire longue, manifestement, c'est que c'est pas seulement les musulmans. Là, aujourd'hui, ça prend le visage de musulmans, mais manifestement, l'ennemi numéro un n'est-il pas le métissage?
C'est la société. Alors, il y a une grande hypocrisie dans le débat français, parce qu'on entend toujours des critiques contre la société multiculturelle. Mais en fait, ce qui est critiqué, c'est pas la société tant multiculturelle que multiethnique. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est le point central. Mais il faut bien voir, vous savez, dans la langue française, c'était l'historien Grégoire Kaufmann qui avait montré ça, le mot racisme, il est à la fin du 19e, d'un monsieur qui explique que les Français de souche latine sont en train de venir remplacer les Français de souche gauloise nordique, et qu'il faut donc une politique de protection de la race de ces Français du Nord contre les Français du Sud. Il appelle ça racisme. Et vous savez, le mot islamophobie, ça c'est en 1893, le mot islamophobie il apparaît en 1910, après la xénophobie en 1901, tout ça c'est ce grand contexte du 19e siècle où il s'agit d'arriver, le mot immigration apparaît dans le dictionnaire en 1876, il s'agit d'arriver à organiser ces sociétés de masse où il commence à y avoir beaucoup de mouvements. Entre 1840 et 1940, il y a 180 millions de migrants dans le monde. Et donc, on élabore des théories pour préserver les groupes, parce qu'il y a cette angoisse qui se crée. Après, ces choses évoluent parce que, après la Seconde Guerre mondiale, on a un écroulement de ces, de ces hiérarchies. L'idée qu'il y aurait des Aryens, que les Slaves, ce seraient des sous-hommes, tout ça disparaît pour des conceptions à plat. On rentre dans un monde à plat, avec des conceptions raciales à plat, des grands groupes, les Blancs, les Noirs, et on cherche plus tous les sous-groupes. Mais ça reste l'obsession centrale, la question centrale, et dedans une question centrale qui est la question de la sexualité, d'empêcher le métissage, d'empêcher que les femmes blanches donnent jour à des métisses, qui est une question centrale. Mais alors, on peut remonter dans le droit germanique au 7e siècle, il y a des questions autour de ça.
Oui, Noël Mamère.
Donc, tout cela est passionnant, mais je voulais revenir à la question que vous posiez tout à l'heure. Alors, c'est pas forcément le fascisme, mais à ces courants qui traversent la pensée de l'écologie. Je regarde ce que disent, par exemple, les 15 000 scientifiques qui nous ont alertés sur les dangers concernant la planète. Ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi, en France et ailleurs, un certain nombre de scientifiques qui nous expliquent que le principal problème pour l'avenir, c'est celui de la démographie. Nous serions trop nombreux. Or, la réalité, c'est que ce n'est pas la démographie qui est la principale menace sur l'avenir de la planète, c'est la question de la redistribution des richesses, de manger par exemple moins de viande pour que tout le monde puisse avoir accès à la nourriture et pouvoir nourrir 10 milliards d'hommes d'ici 2050 comme cela est prévu. Mais cette question de la démographie, elle cache quelque chose, parce que elle permet de se dispenser, de remettre en cause le système dans lequel nous sommes. Et c'est une idée qui est ancienne, qui vient de scientifiques américains conservateurs comme Paul Ehrlich, avec sa fameuse bombe P qui avait été publiée dans les années 60 et qui est même reprise par quelqu'un qui a été adulé comme une icône par les écologistes, qui s'appelle James Lovelock, et son fameux complexe Gaïa, et qui lui vous explique qu'il faudrait que, pour que la planète survive, nous ne soyons plus qu'un milliard. Donc c'est une autre version de ce que l'on appelle la crainte du grand remplacement, puisqu'en effet, la crainte de ces gens-là, comme celle de Trump avec son mur entre les États-Unis et le Mexique, c'est la crainte de voir débarquer dans les pays du Nord, avec une certaine culture, tous ces damnés de la Terre qui viendraient d'Afrique ou des Amériques.
Dernière question, Nicolas Lebourg, pour vous, sur le rôle de la France, pour reprendre le titre du Parisien aujourd'hui en France. Tout a commencé en France, puisque le terroriste qui a été arrêté a dit avoir agi après avoir effectué un voyage en France en 2017, année électorale, que la France occuperait une place centrale dans son cheminement vers la violence, et en particulier, a-t-il dit, l'élection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. On voit aussi des réactions, en particulier du côté du Rassemblement national, mais de certains représentants de la droite politique française reprenant cette théorie du grand remplacement. Comment faut-il réagir à cela, Nicolas Lebourg ? Est-ce que la France a une partie de responsabilité d'une certaine façon ?
Complexe à dire, parce que vous savez, quand on prend les grands théoriciens de la race, par exemple, au 19e siècle, beaucoup sont des Français. Mais ils ont peu de succès en France. Ils vont avoir beaucoup plus de succès ailleurs, et en particulier, évidemment, en Allemagne. Ensuite, la France, bien évidemment, il faut bien voir à l'échelle internationale, nous sommes un pays qui a un rôle très particulier. Nous sommes certes un petit pays, mais nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes forcément regardés avec une particularité par tous les nationalistes. Et puis, il faut bien voir, lorsqu'on parle de toutes ces théories, lorsqu'on parle de tous ces groupes à l'échelle internationale, puisque là, on est sur un phénomène vraiment mondialisé, ce sont les Français qui ont été les moteurs de toutes ces histoires. Ce sont des noms très peu connus du grand public, je ne vais pas rentrer dedans, mais ce sont en particulier des Français, puis des Belges, des Wallons, on a aussi quelques Suisses, etc. C'est ce petit monde francophone qui, après la Seconde Guerre mondiale, a le plus nourri idéologiquement, largement, les extrêmes droites radicales sur ces questions de la race. Donc, on a, si vous voulez, un rôle très spécifique et qui se rattache à des problématiques parce qu'on est à l'époque de la décolonisation. Et si vous voulez, lorsque vous avez dans les années 50 certains radicaux qui disent mais en fait que l'Algérie prenne son indépendance, au contraire de ce que disent évidemment tous les extrêmes droites, et puis les droites, et puis même des gens de gauche, que l'Algérie prenne son indépendance parce que ça évitera justement ce métissage et il faut se reprojeter autre chose dans une union politique à l'échelle européenne ou à l'échelle du monde blanc, eh bien forcément ces Français-là, ils apportent des idées novatrices à l'intérieur de l'extrême droite. Il y a aussi des Américains qui ont là-dedans, etc. Mais ils sont un moteur idéologique. Donc je crois que c'est pas irrationnel de ce côté-là que quelqu'un qui a manifestement une culture, qui a manifestement une pensée qui est construite idéologiquement, qui n'est pas quelqu'un de confus, s'intéresse à notre pays.
Merci beaucoup, Nicolas Lebourg, de nous avoir éclairé sur, disons, cette colonne vertébrale idéologique de l'extrême droite que votre collègue Jean-Yves Camus préfère appeler l'ultra-droite. Et on sait que des groupuscules aujourd'hui en France font l'objet d'une commission d'enquête parlementaire à suivre donc, en tous les cas, de ce côté-ci du monde. Merci beaucoup, Nicolas Lebourg. Il est 8h31 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Bourré.
Noël Mamère, il faut s'inscrire dans la durée ou il faut agir immédiatement, tout de suite, parce que justement, ça a assez duré.
On est saisi par le vertige de l'immédiateté dans cette société, au point qu'on en est amnésique, on oublie le mardi ce qu'on a dit le lundi. Et c'est précisément parce que nous sommes dans le court terme que nous sommes dans la situation de pré-effondrement, comme le disent certains, que nous connaissons aujourd'hui en termes d'environnement, de biodiversité et peut-être même de survie de l'espèce humaine sur cette planète. Nous sommes en train d'ailleurs de découvrir que nous sommes dépendants des autres espèces qui nous entourent. C'est notre entourage, comme le dit si bien le philosophe Bruno Latour. Et donc, il faut s'inscrire dans la durée. D'ailleurs, la question, si nous n'avons pas été bien compris pendant tant d'années, les écologistes, c'est parce que nous tenions compte de ce qui est aujourd'hui battu en brèche par le système dans lequel nous nous trouvons, qui est celui de l'accélération, comme dirait le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, c'est parce que nous tenons compte de la complexité du monde. Or, le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien nous dire. Il est absolument pas binaire. Et donc, c'est parce que ce monde est complexe qu'il faut s'inscrire dans la durée. Donc, il faut lutter pas simplement contre la question du réchauffement climatique, mais il faut lutter aussi contre la question de la sixième extinction qui est à l'œuvre pour la biodiversité. Il faut tenir compte des discriminations, il faut tenir compte des inégalités qui se creusent, et nous savons très bien les uns et les autres que lorsque nos conditions de vie se dégradent, elles font exploser les inégalités. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se contenter de dire écologie, écologie, écologie en la réduisant à la question de l'environnement, parce que l'écologie, elle est indissolublement liée à la question sociale, à la question des droits humains.
Et c'est précisément la question que je voulais vous poser, Noël Mamère. Là, je m'adresse encore à l'ancien député écologiste que vous êtes, avant de parler au maire de Bègles que vous avez été pendant 28 ans. En tant que député écologiste, cette question de la réconciliation et de la conciliation, puisqu'il y a eu divorce quand même entre justice climatique et justice sociale, comment articuler les deux aujourd'hui? C'est une question qui émerge et qui est assez difficile à répondre. On a tous beaucoup en tête l'idée que les deux ne convergent pas. Aujourd'hui, doivent se tenir des marches pour le climat dans plusieurs villes de France. Les Gilets jaunes appellent à manifester. Est-ce que vous pensez que les deux peuvent se rejoindre?
Évidemment. Évidemment que les deux peuvent se rejoindre. Il y a d'ailleurs des mouvements qui existent depuis bien longtemps. Je pense au mouvement pour la justice environnementale qui est né aux États-Unis dans les années 1980, dans une partie des États-Unis qui est particulièrement touchée par la double peine, c'est-à-dire les injustices sociales et les injustices environnementales. Ce mouvement pour la justice environnementale, il est né du côté de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, où vous pouvez constater qu'il y a à la fois des effets dévastateurs liés aux implantations d'usines chimiques extrêmement polluantes, au point d'ailleurs que la route qui sépare la Nouvelle-Orléans de Baton Rouge est appelée l'allée du cancer. Et comme par hasard, ceux qui habitent là, ce sont des Native Americans ou des Afro-Américains. Et cette conjonction des droits, de la lutte pour les droits civiques et de la justice climatique fait qu'est né ce mouvement pour la justice environnementale et qui s'est développé beaucoup dans les pays du Sud. Donc nous avons beaucoup à apprendre de ces pays du Sud qui se battent, notamment, je pense aux Indiens d'Équateur, contre l'extractivisme et contre des sociétés pétrolières comme Chevron. Ils ont d'ailleurs lancé un procès pendant de très longues années. Et oui, effectivement, il faut expliquer. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis ou pas besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, chez nous, à notre porte, il faut effectivement démontrer qu'il y a un lien entre la justice climatique et la justice sociale, et que, par exemple, si les Gilets jaunes ont protesté et se sont levés contre la taxe carbone. Il faut leur expliquer que la taxe carbone, c'est une nécessité, mais à condition de la redistribuer vers ceux qui sont les plus touchés par l'étalement urbain, par la relégation à cause de l'absence de mixité sociale. Et vous voyez bien que la conjugaison de tous ces éléments fait qu'il n'y a pas une réponse à un problème, mais plusieurs réponses. Et s'il y a des gens qui aujourd'hui se trouvent dans des situations de relégation, sentiment de mépris avec beaucoup de ressentiment, c'est parce qu'ils ont été relégués dans des zones où parce qu'ils ne pouvaient pas habiter en cœur de ville, parce qu'il n'y avait pas de mixité sociale, parce qu'il n'y a plus de ligne secondaire, parce qu'il n'y a plus de service, donc ils sont prisonniers de leur voiture et ils sont de plus en plus isolés. C'est contre ça qu'il faut se battre.
Mais certains
aussi
se retrouvent et le disent et le clament aujourd'hui haut et fort, victimes effectivement des injustices sociales et des inégalités, mais aussi de la dégradation du climat et de l'environnement. Dire ça d'un côté ne répond pas à la question qu'on pose souvent et à cette idée reçue, mais contre laquelle il faut lutter aujourd'hui, Noël Mamère, qui est que ça coûte cher d'être écolo.
Mais écoutez,
et
que
c'est
non,
pas
ça coûte...
donné à tout le monde de pouvoir se nourrir bien et de pouvoir conduire une voiture électrique.
Ça coûte beaucoup plus cher de lutter contre, de s'engager dans des programmes de dépollution, et ça coûte beaucoup plus cher à la société de savoir que ceux qui sont aujourd'hui les plus pauvres, et c'est d'ailleurs un des critères, un des marqueurs de la pauvreté dans ce pays, sont des gens qui sont atteints d'obésité ou du diabète. Tout ça, ça soigne et ça coûte très cher à la société. Donc si les gouvernements et les pouvoirs, le pouvoir politique a le courage de le dire, alors s'il internalise les coûts externes que représente ce système de la malbouffe, par exemple, et ce système extrêmement coûteux de voracité, de dépendance des énergies fossiles, alors il doit mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Par exemple, si je parle de la question de l'alimentation, c'est augmenter de manière extrêmement sensible les aides à ceux qui pratiquent l'agriculture biologique débarrassée des pesticides. C'est ne plus vendre à des lotisseurs, à des promoteurs qui font des lotissements à la campagne complètement perdus, et bien de vendre ces terrains moins chers à des agriculteurs qu'à des lotisseurs pour rapprocher la production de la consommation. Si l'on regarde par exemple la ville de Paris ou la métropole bordelaise, puisque j'ai été maire dans ce coin, nous avons 2 jours d'autosuffisance alimentaire. 2 jours d'autosuffisance alimentaire. Tout ce qui était le grenier de Bordeaux, des villes comme Eysines, Bègle, Blanquefort, dans lesquelles il y avait des jardins et on cultivait, tout ça, ça a été bétonné et ça a été urbanisé. Donc voilà, les questions politiques, elles sont là. On sait où sont les réponses. Et ça coûte beaucoup moins cher de s'engager dans ce type de politique que de continuer à laisser faire un certain nombre de lobbies qui s'engraissent sur la santé des gens. Et si on tenait les promesses qu'on a, devant lesquels on s'est engagé auprès des Français, par exemple, réduire, isoler de manière massive tous les bâtiments et tous les logements qui sont aujourd'hui des passoires énergétiques. Qui est victime de ce qu'on appelle la crise énergétique? Ce sont les plus pauvres, ce sont les plus modestes. C'est à cela qu'il faut s'adresser, c'est cela qu'il faut aider si l'on veut contribuer à ce que l'écologie ne soit pas considérée comme punitive, mais comme un outil à la fois de lutte contre les inégalités et créateur d'emplois.
Est-ce que vous croyez vraiment que ces marches, ces journées d'action internationale pour le climat qui sont portées, beaucoup on l'a vu hier, par des jeunes, par des lycéens, par des étudiants, par des collégiens, mais qui sont portées également par énormément d'adultes, même si les jeunes hier disaient pour beaucoup que leurs parents se sentaient moins concernés parce que c'est pas eux qui seront touchés par la dégradation de la planète, peut-être à tort parce que ça commence déjà, mais est-ce que vous trouvez que ces manifestations ont du sens au sens où sans la volonté politique et sans le relais politique, il ne se passera rien. Est-ce qu'on n'a pas un peu citoyen versus politique aujourd'hui et ça peut déboucher sur quoi, selon vous?
Écoutez, il y a, paraît-il, eu de grands débats auxquels ont participé les Français de manière massive, ce qui prouve qu'ils ont envie à la fois de parler, d'échanger, de débattre et de s'intéresser à ce qui les regarde. Donc ça veut dire qu'il y a dans la société française, et bien au-delà, une volonté manifeste que le citoyen soit beaucoup plus associé au cheminement des décisions politiques.
Donc ce qui se passe, on va voir ce que ça va donner.
Bon, on verra.
Question
ce qui se passe. De toute façon, lorsque les sociétés, il n'y a pas de fatalité. Lorsque les sociétés ne bougent pas, elles sont destinées à être soumises. Donc on a vu, toute l'histoire nous montre que quand les sociétés se mobilisent, eh bien les politiques sont obligés de suivre, à moins qu'on soit dans des régimes totalitaires. Mais même les régimes totalitaires qu'on croyait éternels se sont brisés. Nous allons célébrer dans quelques mois le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Donc la question, effectivement, c'est de trouver une formalisation politique à cette mobilisation. Ces jeunes, et il y a d'ailleurs plusieurs catégories de jeunes, il y a des jeunes lycéens, il y a aussi des jeunes de 20 à 30 ans, et je constate, comme d'ailleurs dans beaucoup d'endroits où les choses bougent aujourd'hui, que les femmes sont à la manœuvre. Et elles sont dans la lignée de celles qui les ont précédées, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et je pense ici en particulier à une femme, une Française, qui s'appelle Françoise Daubonne, qui a été l'une des principales fondatrices et théoriciennes de l'écoféminisme. Et toutes ces gamines, qu'elles s'appellent Greta Thunberg ou Hanouna de Wever, sont celles qui sont en train de prendre le relais de ces écoféministes et qui vont contribuer à faire changer le monde.
Alors, je vais reprendre votre casquette de mère de Bègle pendant 28 ans, Noël Mamère, pour vous demander si l'échelle municipale est la bonne échelle pour mettre en œuvre les mesures écologiques, ou si maintenant il faut voir beaucoup plus large.
Alors, il y a plusieurs théoriciens qui ont expliqué que le small is beautiful et que l'échelle à dimension humaine, l'échelle micro, était sans doute l'endroit où les choses pouvaient se faire le mieux. Je pense à deux auteurs, un qui m'a beaucoup influencé dans ma démarche intellectuelle, qui s'appelle Jacques Ellul, et qui avait écrit la technique ou l'enjeu du siècle et bien d'autres sujets, et qui est, on peut considérer comme un des pères fondateurs de l'écologie. Et puis un auteur qui est devenu à la mode chez les écologistes, qui s'appelle Murray Bookchin, qui est un auteur anarchiste libertaire et qui avait théorisé ce qui est beaucoup utilisé par les écologistes aujourd'hui, le municipalisme libertaire, c'est-à-dire expliquer que c'est dans les petites entités que l'on peut assurer la transition. C'est d'ailleurs le mouvement des villes en transition. Bègle est une ville en transition. Ça a été créé en Angleterre par Rob Hopkins dans une petite ville qui s'appelle Totnes. Toute la question est de savoir, comme le disait Alain Touraine, si la démocratie, si ces petits bouts vont pouvoir faire une chaîne qui fasse changer la société. Est-ce que ces petites initiatives qui se multiplient dans toute l'Europe, et pas simplement en Europe d'ailleurs, ça a été cité tout à l'heure dans la revue de presse à travers le tour du monde de Oui Demain, et on le voit dans un certain nombre de pays émergents, toutes ces initiatives locales, est-ce qu'elles vont faire société? Et est-ce qu'elles vont contribuer à bousculer les responsables politiques et à affaiblir tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que ça fonctionne? Moi, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, je sais que cette somme des initiatives locales peut effectivement contribuer à faire changer la société.
En tout cas, vous avez, Noël Mamère, quitté le parti Europe Écologie Les Verts en 2013, peut-être un peu à la Hulot, parce qu'on n'en faisait pas assez dans ce parti politique. Il se trouve qu'on a des élections européennes très bientôt, l'écologie n'a pas l'air d'être encore un enjeu des européennes, bataille entre la gauche et l'écologie aujourd'hui. De quel œil, avec le recul qu'il vôtre aujourd'hui, voyez-vous tout ça?
Je suis un peu désespéré, parce que je constate une chose, c'est que ma génération qui s'est battue, qui a été traitée de Cassandre, d'illuminée, d'ultra, a fini par faire infuser les idées de l'écologie dans la société, et aujourd'hui nous avons remporté une victoire culturelle. C'est l'écologie qui est le paradigme politique du 21e siècle. Et au moment où il devient le moteur du rassemblement, voilà que tout le monde s'éparpille et que nous n'arrivons pas à ce que gauche et écologie se réunissent pour poser le socle d'une entité politique entre, on va dire, Macron et Mélenchon, qui soit capable de revoir le logiciel politique d'une vieille gauche productiviste. Et je regrette beaucoup cette situation. Moi, je m'étais impliqué dans le mouvement Place Publique et Génération pour qu'on arrive à cette alliance. Je constate que pour le moment, on n'y arrive pas. Je le regrette et je pense que ceux qui ne veulent pas ce rassemblement, ceux qui cherchent des différences plutôt que des alliances et qui ne veulent pas profiter de cette opportunité que nous avons d'une gauche traditionnelle et du premier parti de la gauche qu'est le PS, qui est très faible et qui est en train de procéder à une sorte d'ajournamento qu'avait commencé Benoît Hamon avec la campagne présidentielle. Le temps de la clarté politique est venu, et effectivement, il faut que les écologistes comprennent que s'ils ratent le rendez-vous, ils porteront une responsabilité majeure dans le fait que l'écologie restera reléguée au second plan et ne sera que la spectatrice impuissante des querelles d'une gauche qui se remet lentement de son autopsie.